Qu'a aussi l'expression humaine a su trouver des médias alternatifs, a su passer d'un médium à l'autre, dans le but de trouver un espace dans lequel se développer ou pouvoir emprunter une autre voie. Cela représente un phénomène clair dans les contextes médiatiques que nous vivons aujourd'hui. Et pensons par exemple au phénomène de médiactivisme et aux expériences médiatiques et transmédiales qu'il a su développer. Je vous parle de médiactivisme parce que je considère que l'une des caractéristiques fondamentales du phénomène de la transmédialité est la collectivisation de l'eau ou bien de l'information, bref, l'effet de voir l'acte narratif comme un acte purement collectif. En effet, aujourd'hui, si nous nous demandions dans quel moment nous avons commencé à voir l'essor d'une forme transmédiale, nous devons nous remonter à l'œuvre de Roy Ascott et sa théorisation de l'art télématique. Et qu'est-ce que c'est l'art télématique, sinon une forme capable d'incarner dans toutes ses manifestations l'ère technologique dans laquelle nous vivons? Par cela, je me réfère à une ère qui semble nous proposer un modèle d'espace social fortement imprégné par la collectivisation qui est présente dans plusieurs aspects de l'expression humaine. Ici, dans les pays qui ont vu la naissance de Marshall McLuhan, nous pourrions nous demander si cette collectivisation et cette nouvelle forme d'espace social qui semble en dériver sont les messages de la technologie numérique. Mais surtout, pour reprendre la réflexion sur l'axe thématique de notre rencontre, la transmédialité, nous devrions nous demander si ces phénomènes si fascinants représentent les structures narratives que la technologie numérique est en train de nous désigner comme une nécessité cognitive. Plusieurs théories tournent autour de cette question, mais chaque jour nous pouvons voir plus clairement que la transmédialité, qui prévoit une superposition, une diversification et une interconnectivité des médias, n'implique aucun déplacement des médias précédents de la part du nouveau médium, au contraire de ce que l'on a souvent théorisé. Et cet univers médiatique, cet nouvel univers médiatique, fait des convergences des médias, semble imposer tout naturellement une forme particulière de pensée aux œuvres d'art, de pensée aux produits et de pensée aux formes de consommation de l'imaginaire. Des médias qui, auparavant, semblaient séparés l'un de l'autre, presque irréconciliables, à nos jours, au contraire, cohabitent ou même se complémentent et se renforcent mutuellement. Et ces règles spécifiques et appartenant à chaque médium commencent à être partagées, commencent à créer une nouvelle forme de création de sens. Et c'est là l'intérêt de discuter sur des cas précis, des expériences d'adaptation et des migrations des systèmes d'un système sémiotique à l'autre. Mon souhait pour notre colloque est donc que l'on puisse discuter sur cette thématique et que l'on puisse échanger nos connaissances et nos expériences dans les domaines de la sémiotique et des médias. En remerciant l'ACFAS pour l'opportunité d'organiser cette colloque dans le cadre de notre congrès annuel, il ne me reste que souhaiter un bon colloque à vous tous et à donner la parole à Evelyne.
Mais avant de s'intéresser au processus adaptatif qui s'opère entre la bande dessinée et le cinéma, c'est ce qu'on a l'intention de faire aujourd'hui, entre la bande dessinée et l'animation, entre la bande dessinée et la littérature et vice-versa, il convient de définir ce que nous pouvons entendre par adaptation. Alors l'adaptation a souvent été étudiée jusque dans les années 90 sous l'angle du degré de fidélité de l'œuvre cible par rapport à l'œuvre source, un critère qui reste toujours essentiel pour décrire le processus adaptatif. Cependant, le champ d'étude s'est émancipé de cette question à partir du moment où les chercheurs se sont plus intéressés à comprendre le phénomène adaptatif en tant que tel, plutôt que d'évaluer uniquement sa valeur artistique. De quelle manière cerner alors l'adaptation, comme s'interroge d'ailleurs Linda Hutcheon en 2006 dans sa théorie de l'adaptation. If the idea of fidelity should not frame any theorizing of adaptation today, what should? En 1998, André Gaudreau, dans la clôture de l'ouvrage intitulé « La transécriture pour une théorie de l'adaptation » qu'il dirige, explique pourquoi préférer le terme « transécriture » au terme d'adaptation. La transécriture relève du processus même de l'écriture d'une nouvelle œuvre, alors que l'adaptation fait référence à un procédé, celui de rendre une fabula et de l'intégrer à un nouveau médium. Dans ce même volume, Thierry Grunstein propose une tentative de récapitulation raisonnée, c'est son terme, sur le processus adaptatif. Il distingue trois pôles nécessaires pour parler d'adaptation. L'œuvre souche, donc il appelle OE1, un processus de translation à partir de cette œuvre souche, et l'œuvre OE2 qui en résulte. Sa contribution donc, de Thierry Grunstein est aussi importante dans la mesure où il met en évidence le contexte de production tant de l'œuvre souche que de l'œuvre qui en résulte, et aussi de l'éventuelle différence de ces deux contextes de production. Il retient quatre principes constituants du phénomène adaptatif. La fable, donc Gaudreau appelait la fabula, c'est-à-dire le sujet que l'œuvre narre et développe, le média dans lequel elle s'incarne, le discours qu'elle tient explicitement et ou implicitement, enfin le texte qui en constitue finalement la surface phénoménologique, c'est-à-dire les mots, mais aussi les images, le son, le mouvement suivant le médium. Avec sa monographie très érudite, A Theory of Adaptation, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, qui grouille d'exemples allant de la littérature au cinéma, en passant par l'opéra et les jeux vidéo, Linda Hutcheon vise clairement à comprendre l'adaptation tant comme produit de création et de réception que comme processus ainsi qu'à en proposer par un système interrogatif de quoi, qui, pourquoi, comment, où, quand, une théorie générale, quels que soient les objets adaptés et adaptants. En effet, Linda Hutcheon souligne néanmoins la difficulté de définir l'adaptation. Yet, however straightforward the idea of adaptation may appear on the surface, it is actually very difficult to define, in part because we use the same word for the process and the product. Louis Hébert, dans son dictionnaire de sémiotique générale, propose une définition de l'adaptation qui distingue aussi, comme le faisait Hutcheon, le processus du produit. Et pour l'entrée en matière de ce colloque, je propose de retenir la définition que cet auteur pose pour l'adaptation. Donc l'adaptation, je le cite, est à la fois, au sens le plus restreint, l'opération, le processus par lequel on modifie une œuvre, généralement en la faisant passer d'un genre à un autre, et ce, au sein d'une même sémiotique, donc d'un même langage. Par exemple, Michel Tournier a fait pour la jeunesse une adaptation de son roman pour adultes, Vendredi ou les limbes du Pacifique. Ou donc, d'une sémiotique à une autre, par exemple un roman qui est adapté au cinéma, mais aussi, par extension, l'adaptation, c'est le résultat du processus. Par ailleurs, la sémiotique de l'adaptation telle que celle qu'a développée Louis Hébert rencontre, entre autres, des différents types d'opérations effectuées par un sujet sur un produit sémiotique pour en créer un nouveau. Louis Hébert fusionne trois typologies des opérations de transformation, dont celles qui sont issues du groupe MU, et de Klinkenberg, ainsi que de Claude Silberberg et de François Rastier. Il en écarte quelques-unes, telles que la permutation, la substitution et le déplacement intense, et il ajoute l'opération de déplacement. J'aurais aimé vous présenter un joli petit tableau, mais pour beaucoup de soucis d'ordinateur, le petit tableau il est rendu sur la rive nord. Voilà. Donc il y a plusieurs opérations de l'adaptation. On peut parler de, on ajoute des éléments, ou on les mélange, on les supprime, on les substitue, ça veut dire qu'on supprime finalement et qu'on ajoute. On les permute, donc on les supprime aussi également et on les ajoute, mais avec un autre type finalement d'opération. On le déplace simplement ou on le conserve. Et tout ça, ce sont les opérations que je viens de vous citer, sont des opérations qui ont lieu sur les substances. Et il existe des opérations sur les intensités, c'est-à-dire on augmente l'intensité, on diminue l'intensité ou on conserve l'intensité. Alors, l'utilisation d'une telle typologie des opérations sémiotiques de l'adaptation me semble un point de départ intéressant pour décrire les phénomènes adaptatifs, quel que soit le médium source et le médium cible que le processus relie. Donc, je pense que c'est un bon point de départ pour aujourd'hui. Donc, après cette introduction que nous venons de vous faire, je vous propose d'écouter nos conférenciers et notre conférencier d'aujourd'hui qui est David Roche, et aussi d'entendre toutes vos communications dans les 3 jours qui viennent.